bien. Ben voilà, les commentaires commencent à arriver. Donc, il y avait un petit temps. C'est super. Ben, merci pour les retours. Alors, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par me présenter, puis présenter les intervenants. Je voulais vous remercier déjà d'être là parmi nous et de... Bonjour à tous. Je vois les commentaires qui arrivent. Vous remercier d'être présents et de suivre ce live qui sera sur la thématique de la peak season, comme vous avez tous bien compris. Qui va être une période un peu particulière, je pense, cette année et qui va être, suite au contexte, qui va être vraiment exceptionnel, je pense. Donc, moi, je me présente vite fait. Je suis Cynthia, je suis responsable marketing chez Itis Commerce. Itis Commerce est une agence web lyonnaise, en fait, spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, donc, dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Nous faisons également des sites vitrines sur WordPress. Suite à ça, on a tout un panel de services, donc c'est-à-dire qu'on crée des sites, on migre des sites, on a également du support, de l'hébergement et également de la formation, donc que ça soit des formations sur des sujets web marketing pour optimiser ses campagnes email ou comprendre ses statistiques ou utiliser les réseaux sociaux ou tout simplement pour que vous soyez autonome dans les logiciels PrestaShop et WordPress. Donc, comme vous avez compris, on organise des événements comme aujourd'hui. Donc, d'habitude, on fait l'événement, le petit digital en physique. Mais vu le contexte, on ne prend pas de risque, on se fait un petit live avec tout le monde. Et on aime bien de s'entourer chez Itis de partenaires de qualité et des experts comme aujourd'hui. Donc, merci à mes intervenants d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous passer la main pour vous présenter quelques minutes pour qu'on sache qui vous êtes. Notamment, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas David qui est avec nous aujourd'hui, c'est Jean-François qui le remplace. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Donc, tout d'abord, Céline, merci d'être là. Tu es Customer Success Manager chez SendCloud. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la solution SendCloud et ton rôle dans la boîte?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Cynthia également, on est super ravis d'être là. SendCloud, c'est la solution d'envoi pour les e-commerçants. Donc, grâce à SendCloud, les e-commerçants vont pouvoir éditer, imprimer leurs étiquettes et traiter en fait toutes leurs commandes à partir d'une seule et même plateforme, quels que soient les transporteurs. Donc, c'est un outil qui fait gagner du temps. Et donc, voilà. Moi, par rapport à mon rôle, en effet, je suis Customer Success Manager. Ça veut dire que j'accompagne nos clients français dans l'amélioration de leur processus logistique. Je les aide, je les conseille sur les choix des transporteurs pour la gamme de leurs produits et également pour, et développer leur business à l'international.
D'accord, ok, merci. Du coup, on est également en présence de Pavel Visor de chez PrestaShop. Donc, Pavel, il me semble que tu es VP, VP Growth, donc un terme un peu technique, on ne sait pas trop à quoi ça, que ça te rapporte. Dis-nous un peu plus sur toi.
Bon, bonjour à tous déjà. Alors, écoutez, effectivement, donc, je suis VP Growth chez PrestaShop. Donc, PrestaShop, solution e-commerce open source, leader en Europe et présent dans plus de 190 pays. Donc, effectivement, notre mission aujourd'hui, c'est d'aider tous les gens qui veulent passer le cap de la digitalisation et aller dans l'aventure du e-commerce et effectivement continuer à aider notre communauté déjà existante, qu'elle soit e-commerçant ou de partenaire, à grandir avec nos marchands. Moi, effectivement, chez PrestaShop, le VP Growth, comme on vient de dire, c'est vraiment en fait une idée de pilotage de la croissance, mais c'est aussi finalement une vision du parcours de nos utilisateurs, c'est aider à mieux comprendre leurs besoins du début de leur aventure en tant qu'e-commerçant jusqu'au fait qu'ils deviennent engagés auprès de PrestaShop et tout ça, de les aider grâce à tous nos partenaires que nous avons, parce que nous avons une communauté aujourd'hui de plus d'un million de personnes réparties sur la planète, donc et de pouvoir les aider effectivement à grandir dans leur aventure e-commerce. Et donc voilà, donc c'est cet enjeu-là, c'est donc la croissance avec une vision très parcours sur la compréhension des besoins de nos utilisateurs.
Ok, super. Et enfin, on est en présence donc, de Jean-François Longy, directeur chez Cybercité, fondateur de Cybercité. Je te laisse la parole, Jean-François, dis-nous.
Eh bien, écoutez, tout simplement, alors, Cybercité, on est une agence lyonnaise aussi à la base, même si on est présent partout en France, qui a pour vocation à développer l'audience et le business de ses clients. Notre baseline, c'est more traffic, more business. Donc, on intervient pour des entreprises, pour des e-commerçants, pour des marques dont on développe la visibilité. Alors, on est beaucoup connu pour la partie SEO, pour la partie média, pour la partie analytique, c'est le social media. Mais le cœur du sujet, on est vraiment sur des logiques d'audience, on va dire, rentables et performantes. Donc, beaucoup de leviers type SEO, type ads, dont sont friands les gens qui cherchent de la performance, notamment sur le e-commerce ou pour des enseignes de distribution. Donc voilà ce qu'on fait, on est 130 personnes et on est implanté partout en France et on a l'habitude de travailler avec Itis Commerce depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir invités également. Et moi, je m'occupe de la partie marketing, communication et de l'accompagnement de certains clients e-commerçants.
Eh bien, super. Merci. Ben, merci d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste rappeler qu'il y a des personnes de notre équipe chez Itis Commerce, mais également de l'équipe SendCloud, Cybercité et PrestaShop dans le chat, qui seront là pour répondre à vos questions. Si toutefois, on ne peut pas y répondre tout de suite, on fera une petite session à la fin de 10 minutes pour essayer de répondre à tous vos problèmes. Et puis sinon, vous aurez les coordonnées de nos intervenants par la suite pour échanger avec eux plus en détail. Alors moi, je voulais commencer tout d'abord, alors j'ai ma petite fiche sous les yeux, avec des chiffres qui sont passés chez Google. Donc je sais que Google publie souvent des chiffres dans leur sens pour faire bien, pour aller un peu dans leur direction. Mais je voulais voir un peu votre avis à tous les trois. Donc tout d'abord, les premiers chiffres, c'est près de 46% des acheteurs français ont indiqué qu'ils feraient davantage leur shopping en ligne que les saisons précédentes. 37% des acheteurs ont également indiqué qu'ils utiliseraient des options pour acheter en ligne puis retirer leurs commandes en magasin en drive, donc le click and collect qu'on a vu énormément ces derniers mois. 51% des acheteurs ont indiqué qu'ils prévoyaient d'acheter davantage auprès de petites entreprises locales. Donc ça aussi, on l'a vu avec le confinement qui a fait qu'on s'est dirigé vers les petits producteurs locaux. Et 47% des acheteurs ont d'ailleurs indiqué qu'ils prévoyaient de vérifier en ligne la disponibilité d'un article avant d'aller l'acheter. Alors, je voulais avoir votre avis sur ces chiffres pour la peak season qui arrive. Donc, la peak season, que ça soit Halloween, le Black Friday, Noël, le Cyber Monday, les soldes qui arrivent par la suite en janvier. Vous, sur le terrain, auprès de vos clients e-commerçants, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ces chiffres sont près de la réalité selon vous?
Je peux y aller. Pourquoi pas, je peux commencer.
Tout à fait.
Nous, on a aussi fait une étude en partenariat avec Nielsen et c'est vrai qu'on a eu pas mal de chiffres. C'est plus ou moins dans les mêmes eaux. Ce qu'on va voir par rapport surtout à nos clients SendCloud, c'est que dû à Corona, il y a eu une énorme hausse du volume d'envoi. Donc, bien évidemment, dans certains secteurs d'activité. Et en fait, on pensait que cette hausse d'envoi allait redescendre, mais au final, ça stagne. C'est-à-dire que ça n'augmente plus, mais ça ne descend pas non plus. Donc, en fait, on se dit que les consommateurs s'habitue doucement et sûrement à commander en ligne. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne va pas changer avec la période des fêtes, tout simplement.
Peut-être une petite une intuition. Alors, ce n'est pas chiffré, mais il y a eu un phénomène avec le Covid, c'est que les pure players et beaucoup de marchands ont profité de l'effet d'aubaine, que les boutiques étaient fermées. Donc, il y a eu un apprentissage forcé par les Français qui étaient certains réfractaires à la commande en ligne. À devoir se faire livrer, à devoir commander en ligne. Et on a vu, pour toutes les raisons qui sont liées à la situation, qu'il y a eu des gros problèmes de livraison logistique, de retard, parce que les produits n'étaient pas là, parce que les livreurs étaient surchargés. Et moi, j'ai l'intuition qu'il va y avoir un report de certaines ventes sur de la collecte en magasin, parce que les gens vont avoir peur de pas se faire livrer. Et par rapport à la période qui va être celle de Noël, les logiciens vont commencer à être engorgés dès le Black Friday et derrière ça va s'enchaîner. Il n'est pas certain qu'on puisse être livré à Noël comme les autres années, commandant le 19, le 20, à avoir les cadeaux le lendemain, le surlendemain. Donc il est possible que le chiffre que tu communiquais de Google sur la préparation, sur aller chercher plutôt en magasin, aller vérifier en ligne, s'avère juste parce qu'il est bien probable que la logistique ne suive pas la période de Noël. D'une part, parce qu'on a tous les ans des chiffres croissants en termes de transactions. L'année dernière, il y a eu 56 millions de CB qui sont passés en une journée le jour du Black Friday. Mm-hmm. Et il est possible qu'on ait les mêmes chiffres, voire plus croissants. Et les gens voyant qu'ils ne vont pas se faire livrer à ce moment-là, pour les jours qui vont suivre, pour la période de Noël, je pense que les gens vont se retourner beaucoup vers de la vérification online et de la récupération en magasin ou des systèmes hybrides. parce que sinon, il risque d'avoir des problèmes. Donc, cette année, ça risque d'être encore plus amplifié que les autres années parce que, comme disait Céline, le niveau reste haut et c'est pas le niveau habituel. Donc, quand ça va être sa période pleine, on va se retrouver sur des chiffres qui vont être astronomiques et qui seront ingérables par les structures actuelles.
Exactement. Du coup, Pavel, tu as quelque chose à rajouter?
Non, je suis assez d'accord. En fait, là, aujourd'hui, en fait, on voit, nous, chez nos marchands, qu'il y avait un avant, il y avait un pendant le confinement et il y a un après où je rejoins Céline, en fait, effectivement, où les chiffres ne se dégonflent pas. Ils ont atteint un pic, un palier et en fait, ça reste très fort, en fait. Et donc, ce qui me fait dire, finalement, même dans les préparations de peak season, comme ça pourrait être pour le Black Friday ou même Noël, tous les indicateurs vont changer. Il va falloir revoir sa façon de faire aussi parce que ce qui était vrai l'année dernière sur une saisonnalité ne le sera plus cette année. On parle effectivement des moyens de livraison qui augmentent, qui explosent. On voit aussi effectivement un élargissement des gens qui aujourd'hui consomment au niveau du e-commerce, des gens qui ne le faisaient pas ou très peu. Je pense notamment aux plus seniors et qui commencent à le faire. Et donc peut-être eux aussi qui vont avoir cette envie de repartir en click and collect, etc. Donc là, tous les repères sont changés. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Enfin, c'est à la fois intéressant et à la fois une situation un peu particulière puisque tous nos indicateurs que l'on a pu connaître l'année dernière vont être complètement redistribués. Donc, cette saison-là va être particulièrement, à mon avis, cruciale à bien préparer justement pour, si on est sur le signe de notre sujet. Mais donc voilà, des chiffres qui sont très à la hausse, une accélération qui va être, à mon avis, assez phénoménale sur la fin d'année. Et donc, il va poser des problèmes qui peuvent être effectivement de logistique ou de gestion, tout ça.
Du coup, pour embrayer donc sur une autre question, Pavel, tu conseillerais quoi en termes de préparation? Parce qu'on dit toujours que la peak season, il faut bien préparer sa veille. Il faut être au courant des choses, de ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour cette année aux commerçants et e-commerçants?
Alors oui, alors moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup eu fait dans le passé, dans mon ancienne vie d'e-commerçant, justement. Mais voilà. Déjà, je n'oublierai pas un petit peu quand même les fondamentaux, même si la saisonnalité va être différente par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, il y en a quand même une, en tout cas, il y a des indicateurs, il faut quand même les prendre en compte. Donc, moi, c'est bien préparer son catalogue, etc., et arrêter de penser, c'est parfois ce que l'on fait assez souvent, si je sors du contexte Covid, on se dit, bon, OK, il y a une peak season qui arrive, tous mes produits qui sont entrés dans le fond du tiroir, je vais les mettre en avant, c'est cela que je vais pousser. Il y a un produit qui ne se vend pas historiquement, on peut le baisser, il peut se vendre un peu mieux, mais ce ne sera pas un carton, un killer pour la peak season. Donc, en fait, du coup, l'idée, c'est de bien avoir en vision l'état des lieux de son catalogue à la saisonnalité et de ne pas oublier, finalement, les produits tendanciels. Et ça, c'est les produits plutôt Covid du moment. Il y a des produits qui ont sans doute commencé à accélérer en termes de vente. Si on reprend en phase saisonnalité, ça se trouve, ils sont inexistants ou une variation qui est très faible. Donc, on les oublie parfois pour la mise en avant sur son site. Et donc, on pense bien à regarder la tendance des 3-4 derniers mois sur les produits qui ont le plus progressé pour aussi les mettre en avant si c'est nécessaire, si ça fait partie de la stratégie du site pendant les moments forts. Donc, moi, ça, c'est un élément qui est assez clé. Et après, derrière, il y a un peu de partage de connaissances, on va dire, chez les copains, on va dire les concurrents qui regardent, qui parfois ont de très bonnes idées aussi dans la façon d'animer. C'est vrai qu'il faut le faire. C'est important. Je pense que tous nos marchands connaissent, en tout cas, les marchands connaissent leurs concurrents premiers. Et il faut pas hésiter à s'inspirer aussi parfois des choses qu'ils ont trouvées malines et intéressantes. Une bonne préparation de peak season, c'est aussi avoir du bon sens commercial quelque part. Parfois, il y a des choses simples qu'on peut mettre en place assez rapidement.
Et en termes de référencement, justement, et d'ads, Jean-François, tu donnerais quoi comme conseil
Alors, je vais vous faire part du cas d'un client, l'année dernière, qui est un e-commerçant qui vend des produits autour de la mobilité et de la moto, qui est un e-commerçant qui tourne déjà pas mal. Et l'année dernière, on l'a convaincu de débrider ses budgets Google Ads au moment du Black Friday, en lui annonçant des chiffres qui étaient importants en termes de recherche, et que on est dans des intentions de recherche qui sont extrêmement marchandes. Enfin, quand on cherchait à cette période-là, c'est qu'on cherchait une bonne affaire, on cherchait un bon plan, on cherchait un prix, et on est dans du trafic qui est extrêmement qualifié et extrêmement marchand, on va dire commerçant. Et on a fait x5 en termes de budget, de dépenses pendant une semaine, et le chiffre d'affaires a vraiment explosé, et le ROI aussi, parce qu'on avait des coûts d'acquisition qui étaient plus bas qu'en moyenne, parce qu'on avait vraiment une audience qui était une audience très intentionniste en termes d'achat, et sachant que c'est un commerçant qui est connu, qui a pignon sur rue avec des bons produits, on a eu des scores exceptionnels et un ROI exceptionnel. Là, on est vraiment dans la logique de dire, et à un moment donné, on a quand on est habitué à avoir une audience, je dis n'importe quoi, de 100, 2000, de 10 000 ou de 100 000 par jour, on n'imagine pas, que, alors il y a le phénomène des soldes que tous les commerçants connaissent, mais on n'imagine pas qu'en cette période, on puisse faire 3, 4, 5, 6 fois plus, et on n'imagine pas l'élasticité en fait de l'audience par rapport au budget. Et on se rend compte, quand on débride vraiment ces sujets-là, qu'on arrive à faire des scores qui sont très impressionnants sur une période qui est très courte. Donc l'avantage, contrairement à une période par exemple de Noël qui peut durer quelques jours, quelques semaines, ces périodes d'achat, quand on est vraiment sur un événement commercial comme celui qui va se produire fin novembre, on peut jouer pendant quelques heures, quelques jours à cette opération-là et avoir un score qui soit très important. Par contre, par rapport à la date à laquelle on est, là, je crois qu'on doit être le 22 octobre, si on parle de référencement, en fait, c'est trop tard. C'était le 22 octobre 2019 qu'il aurait fallu se poser les questions de ces sujets-là. En tout cas, on a le cas, j'ai expliqué un cas là, qu'on a travaillé en SEO, qui est le cas de Pro Bike Shop, qui est une très grosse boutique de vente en ligne d'accessoires de vélo, sur lequel on a travaillé une opération SEO et de linking au mois de tout début janvier, et qui a eu un effet incroyable début mars sur des mots-clés qui avaient été choisis, on va dire, pour des raisons stratégiques, qui étaient home trainer et tout ça. Et on s'est retrouvé au moment du confinement à se retrouver sur les mots-clés les plus porteurs, avec une audience qui a augmenté de façon folle sur des produits qui étaient très tendance. Donc, tout ça pour illustrer le fait que quand on… Alors là, cette saison de pic, on l'avait pas imaginé, on l'espérait pas, on l'espère toujours pas, mais c'est que quand on va travailler sur des sujets SEO par rapport à des saisons, à des saisonnalités fortes, que ce soit Noël, que ce soit les soldes, que ce soit le ski, que ce soit l'été ou quoi que ce soit, c'est 3, 4, 5, 6 mois à l'avance qu'on travaille. Donc ça, aujourd'hui, les seuls leviers sur lesquels on puisse vraiment faire des choses qui soient efficaces pour le mois qui vient, c'est vraiment de la publicité, c'est du shopping, c'est de la vidéo. Et après, si on se replace dans une logique long terme, bah, les soldes reviennent toujours, l'audience revient toujours. Donc, on peut aussi travailler du SEO pour se mettre dans une logique de plus long terme et de se dire, bon, bah, on va travailler pour janvier, pour les soldes de 2021, d'hiver 2021.
Mmh. Oui, non, bah, on est d'accord. De toute façon, le référencement naturel se fait toute l'année. Hein. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Très bien.
Et les saisons comme ça sur les soldes, ce n'est pas toute l'année. Parce que j'allais dire, si on travaille au mois de mars pour les soldes de l'été, on va être trop tôt. Il y a vraiment un timing à gérer. Et quand on travaille, par exemple, pour de la rentrée scolaire, pour des sites comme Cultura, on travaille 4-5 semaines avant certains trucs pour arriver juste au moment du pic sur les meilleures positions, sachant qu'après, ça bouge très fortement. C'est pareil pour Noël. Donc, il y a le long terme et après, il y a le tactique en SEO qu'il faut travailler sur du 5, 6, 8 semaines.
Du coup, pour le Black Friday, tu conseillerais de travailler à partir de quand? Là, on est d'accord que c'est un peu tard, mais du coup, pour l'année prochaine.
Il est tard là sur ces mots-clés-là, mais il n'est pas impossible de faire des petits coups d'audience. Après, faut voir au cas par cas. Ça dépend si ton site est très réactif, ça dépend à quel niveau il part, parce qu'il y a des sites qu'on peut faire bouger très fortement en quelques jours et d'autres qui en plusieurs mois bougeront très peu. Donc c'est vraiment au cas par cas. Par contre, la partie publicitaire, faut vraiment l'anticiper maintenant pour voir quels sont les budgets qui sont disponibles, se faire accompagner par une agence et par Google pour voir quels ont été les volumes qui ont été disponibles pendant les heures qui ont été celles des meilleures heures du Black Friday de l'année dernière. Et puis après, après, tout est une question de ROI, mais ne pas se limiter en termes de budget, parce que c'est le moment où on peut vraiment faire un carton, collecter des nouveaux clients, faire du chiffre d'affaires, et sans que ça soit forcément des coûts d'acquisition qui soient très, très forts.
Du coup, Céline, en termes de préparation au niveau des transports, enfin, j'imagine qu'il y a quand même de la préparation au niveau de la livraison, même si vous êtes, on est d'accord, c'est un club sur l'opérationnel au niveau de l'e-commerce. J'imagine qu'il y a quand même des choses à négocier en amont pour les pics de vente qu'on peut avoir d'envoi de colis à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil de ton côté?
Je pense que ça va passer par l'anticipation. Dans un premier temps, la gestion de ses stocks, donc faire en sorte qu'on, comme disait Pavel, qu'on ait un bon catalogue, qu'on ait assez de produits, assez de rouleaux d'étiquettes, de cartons, enfin des choses petites simples qu'on va utiliser tous les jours, mais qu'on ne soit pas dépourvu en fait au moment de cette période des fêtes. Et après, bien évidemment, ça va passer par le check-out. Donc, nous, on est spécialisés aussi dans la livraison, dans le sens où on va conseiller aux e-commerçants d'offrir plusieurs types de livraison. Parce qu'en offrant plusieurs options de livraison, en fait, vous n'allez pas être dépendant sur un transporteur qui va peut-être avoir des retards ou des délais à cause de la hausse du nombre d'envois. Mais au final, offrir une livraison en point de retrait, à domicile ou en click et collect, par exemple, directement, ça va permettre à vous d'être flexible, mais également de donner une flexibilité au client qui ne va pas dépendre et ne va pas être, on va dire, insatisfait si jamais il y a un retard au niveau de la commande. Donc, c'est vraiment laisser le choix au consommateur de ce côté-là. Et après, bien évidemment, il va avoir la question du prix. Est-ce qu'on a envie de faire payer les frais de livraison ou pas ? Sachez qu'il y a 30% de Français qui sont prêts à payer plus pour une livraison le jour même ou le lendemain. Donc, par exemple, d'après une étude qu'on a réalisée, seulement 9% des e-commerçants proposent une livraison le lendemain et 2% le jour même. Donc ici, si vous voulez vraiment vous démarquer en fait, de la concurrence, ça va être un réel avantage parce qu'en offrant ça, vous allez pouvoir en fait, gagner, enfin, augmenter votre taux de conversion, mais également fidéliser la clientèle. Donc, il y a ces petits facteurs en fait, auxquels il faut penser, qui ne sont pas dédaignables et qui peuvent vraiment en fait, ajouter quelque chose à l'expérience client tout simplement. Donc, une anticipation en amont de la logistique, on va dire, l'automatisation, l'optimisation des petites choses de tous les jours. Et après, bien penser à la livraison en termes d'options et de coûts, on va dire.
Du coup, c'est très intéressant du coup, pour se démarquer des concurrents. Pour revenir sur un point que tu as dit, d'ailleurs, pour rebondir un peu avec un cas client de notre côté chez Itis, au niveau de la diversification pardon, de la livraison, on l'a bien vu pendant le confinement, on a un client qui s'appelle Men in Tissu et suite en fait aux problèmes qu'il y a eu, notamment l'arrêt total de Mondial Relais, enfin ce genre de choses, hein, du coup ils ont en fait vraiment s'adapter et notamment ils ouvraient leur site une heure par jour et ils faisaient leur plein de commandes et ils coupaient pour le reste de la journée parce que bah, du coup ils ont dû anticiper au niveau de ça. Donc c'est vrai que on l'a bien vu que l'intérêt justement de diversifier sa livraison et de s'adapter en termes de conditions était vraiment super importante. Pour revenir du coup à la démarcation de la concurrence, qu'est-ce que tu conseillerais toi Pavel au niveau de ça pendant la peak season?
Là tu parles plus en animation commerciale, c'est ça ce qui se passe sur
Oui, tout à fait.
Déjà, il ne faut pas oublier que, on l'a dit hein, indirectement, mais il faut le signaler, c'est globalement, pendant ces périodes très fortes, il y a une augmentation de la conversion qui est assez naturelle, qui est de l'ordre de 20 jusqu'à 30% qu'on a pu voir. Donc ça, c'est assez naturel. Et parfois, le risque qu'on peut avoir, c'est de dire, bon, bah, c'est cool, j'ai la croissance qui est là, elle s'est déjà bien et je m'en contente. C'est effectivement, comme le disait Jean-François, c'est le moment de cartonner sur un prisme de temps qui est quand même très court. Donc effectivement, soit on a bien préparé son SEO avant, et tant mieux, soit on l'a pas fait, et là, il faut voir si en SEO, on peut essayer de se rattraper. Mais dans tous les cas, de penser que ça va se faire un peu tout seul, ça, c'est la première grosse bêtise. Donc du coup, on prépare bien effectivement sa boutique. Et c'est là, en fait, où des 20, peut-être faire un super plus 30, c'est ça qui va faire la différence, en fait. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment là sur un prisme très bonne préparation du catalogue et de sa mise en avant, finalement. Là, on parlait effectivement après d'éléments marketing qui peuvent être pour la conversion in fine, qui va être par exemple les éléments de transport pardon, ou de délai qui est forcément très, très clé dans une intention d'achat. Après, derrière, c'est à ce moment-là où moi, je vais commencer aussi à mettre en place peut-être des opérations de bundle. C'est le moment ou jamais de faire, parce que les paniers moyens aussi augmentent. On peut aussi grouper des produits qui ont du sens, on essaie de faire en sorte qu'ils aient quand même du sens dans la verticale de notre site, mais là, typiquement, c'est le moment ou jamais de faire aussi exploser son panier moyen au-delà des conversions, et là, ce serait faire des packs de produits qui vont bien, et voilà. Après, ce qui est difficile aussi, c'est que suivant les sites qu'on a et le business que l'on porte, et parfois, on peut raconter des histoires derrière. C'est toujours plus facile quand on fait une cosmétique bio que quand on vend un produit qui est plus technique, comme des boulons, par exemple. Donc là, dès qu'on peut raconter une histoire derrière, il faut en profiter à fond parce qu'aujourd'hui, nous, on a des cas aussi de e-commerçants qui utilisaient beaucoup Instagram, pour ne pas le citer évidemment, qui était au début surtout un outil de branding, on va dire, avec un peu de conversion, mais vraiment très branding. Et ce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement, c'est que toute la chaîne de valeur, awareness, on parle de l'image de marque, etc., jusqu'à la conversion, venait vraiment de chez Instagram. Donc, en fait, voilà, on commence aussi à avoir des choses assez intéressantes à ce niveau-là, où des leviers étaient plutôt pour de l'image, et maintenant, on vient des leviers de conversion. Et ces leviers-là marchent d'autant plus quand on raconte une belle histoire. Voilà.
Et du coup, pour rebondir sur le social commerce, du coup, Jean-François, est-ce que toi, tu as des remarques au niveau de ça?
Non.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu un boom là, des nouvelles fonctionnalités, Instagram Shopping, Facebook.
Alors, je voulais revenir, on peut en parler, mais je voudrais revenir un tout petit peu en avance sur ce qui a été dit, par ce que j'ai dit et ce que Pavel a dit sur ce moment un peu exceptionnel où l'audience augmente de façon dramatique et des fois ça peut être même dommageable pour ceux qui n'ont pas préparé ce qu'il faut en termes d'hébergement ou qui ne sont pas optimisés. Donc ça peut être aussi un moment de déception pour les internautes parce que les sites sont peu accessibles ou parce qu'ils sont indisponibles carrément. Donc on a des taux, des audiences qui augmentent de façon délirante, on a des taux de transformation qui augmentent aussi, des paniers qui peuvent augmenter, mais c'est quelque chose qui est assez éphémère, c'est-à-dire que c'est une fois par an, c'est quelques jours, après il y a différents pics de l'année, mais il y a quelque chose auquel les commerçants pensent peu, c'est qu'ils veulent absolument vendre des produits, et c'est leur vocation, mais à ce moment-là, quand on a 3, 4, 5, 6, 10 fois plus d'audience que l'on en a par jour, ça peut être aussi un bon moment pour collecter des emails et pour collecter des gens qui sont intéressés par son produit, surtout si on a un produit affinitaire. Je pense que si vous avez une boutique d'apiculture, si on a des tissus, tout le monde ne va pas acheter des tissus. Enfin, il faut avoir un attrait par rapport à ce produit-là. Mais il y a quand même si votre taux de transformation est triple, il y a quand même 95% des gens qui vont venir sur votre site et qui ne vont pas acheter. Mais par contre, ce sont des gens qui sont intéressés par vos produits. Donc là, ça peut être intéressant de doubler la promo par des opérations de collecte. Alors nous, on a un logiciel qui s'appelle Catch-up qui permet de collecter des données, de collecter des emails de façon légale, évidemment, en échange de promo, en échange de contenu gratuit. C'est de l'inbound à la sauce B2C. Et ça, c'est vraiment important de dire, il faut capitaliser sur ces audiences-là parce qu'elles sont finalement assez peu coûteuses à produire à un instant T, mais assez exceptionnelles. Et il faut essayer d'en tirer profit pour attirer des gens qui sont en haut de funnel et qui vont peut-être pas être acheteurs de votre produit à ce moment-là, mais qui par contre pourront être réactivés pour Noël, pour les soldes, pour différentes occasions, pour des événements qui seront propres à vous, être dans des périodes plus creuses. Donc il faut aussi essayer de fertiliser cette audience et d'en tirer le maximum au-delà de l'effet commercial qu'on peut capter instantanément. Alors pour revenir à la question sur la partie social shopping, nous on a quelques expériences mais qui sont assez balbutiantes, mais on se rend compte effectivement que ça soit de l'Insta, que ça soit même du Facebook, un peu du Pinterest dans le domaine de la déco, on a des médias aujourd'hui qui développent des, alors Insta c'est des chiffres qui sont colossaux hein, par rapport à des Pinterest, on n'est pas sur les mêmes volumes, mais là effectivement on peut avoir des flux qui sont extrêmement importants, mais ils sont pas liés forcément à cette saisonnalité ou à ce pic, c'est-à-dire qu'ils sont liés à une communication d'une marque, d'une personne qui va montrer des produits inspirants, qui va communiquer et dire des belles choses, comme c'était dit précédemment. Mais ça, c'est pas forcément lié à l'opération commerciale ou à ce moment-là. Il faut le faire, si possible, le plus en amont possible toute l'année pour créer de la préférence pour sa marque et qu'au moment où les gens sont dans une logique transactionnelle et qui repassent sur des leviers type search, que ce soit en SEO ou en média, puissent revoir votre marque, retomber sur vos produits et profiter des opérations commerciales que vous mettez en place. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de l'année, au même titre que mes histoires de collecte d'email. En fait, il faut raisonner ce qu'on appelle le pic comme un moment de l'année et pas comme un moment tout seul. C'est-à-dire que vous travaillez votre collecte, vous travaillez votre business toute l'année et puis il y a des moments forts qu'il faut savoir, on va dire, il faut surfer la vague en fait. Il y a des petites vagues et puis à un moment, il y a des grosses vagues et c'est la grosse vague, il faut être là au bon moment, capter les audiences, s'assurer que son site fonctionne, s'assurer qu'on a les meilleures offres, tout ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Tout ça est évident, mais ça se travaille dans le temps. C'est comme ce que j'ai pour le SEO. Donc, c'est le social media se travaille dans le temps, le SEO se travaille dans le temps. Et là, à ce moment-là, quand vous avez ce pic-là, eh ben, vous faites tout ce qu'il faut en termes de produits, en termes de livraison, en termes de disponibilité et après toute opération qui permet de collecter l'email pour en tirer le maximum à des coûts d'acquisition qui vont être plus bas que la moyenne, malgré le fait que vous soyez dans une période qui soit en général promotionnelle.
Ok, très bien. Et du coup, on parlait un peu, Céline, de la livraison gratuite, justement, pour se différencier des concurrents, mais on sait que c'est un peu un sujet à débat pour les e-commerçants, parce que offrir la livraison, c'est quand même un sacré coût. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme argument quand on te dit ça, quand les commerçants viennent te dire « ouais, mais ça coûte cher ».
Ça dépend. En fait, je pense que ça dépend aussi de la gamme de produits, également du montant de la commande. Les Français, par exemple, vont s'attendre à des frais de livraison gratuits à partir d'un certain montant. Donc, plus le montant est élevé, par exemple, on a vu, c'était 150 € de panier. Donc là, on va s'attendre à un frais de livraison gratuit. Après, bien évidemment, plus le montant de la commande est élevé, plus on est prêt à payer un petit peu plus pour être livré. Donc après, faut aussi calculer effectivement ses coûts, voir si c'est envisageable et si c'est quelque chose qu'on a envie d'offrir. Après, je trouve que c'est aussi un bon service. Ça montre que le e-commerçant est prêt à tout simplement fidéliser sa clientèle et faire en sorte que les clients reviennent. Après, il faut aussi penser aux frais de retour. Si on offre la livraison à l'aller, est-ce qu'on va offrir les frais de retour? Donc, il y a toutes ces petites politiques de frais de livraison à penser.
Ok, très bien. Pour revenir sur un peu les canaux d'acquisition, est-ce que, notamment, je pense à Jean-François ou Pavel, est-ce que vous avez un avis sur le fait, est-ce que c'est vraiment le moment de les multiplier, par exemple, à cette période-là, et de tester des nouveaux canaux?
Je me lance ou pas mal?
Vas-y.
Je pense que c'est pas le moment de se lancer, c'est-à-dire que parce que ça peut être l'occasion d'un croutage, c'est-à-dire qu'il faut tout à l'exemple que je donnais dans le domaine de la moto, quand je dis on multiplie par X le budget AdWords, c'est qu'on sait qu'on a déjà du rendement, on sait que c'est déjà rentable en temps normal, et là on accélère et on suraccélère le sujet, sauf à se dire, on lance notre site à ce moment-là et on n'a pas d'expérience, mais je pense que c'est pas dans ces périodes-là qu'il faut expérimenter des choses, voire très à la marge. Par exemple, si là, on en parle dans notre magazine, la mort trafic sur les marketplaces, et aujourd'hui, c'est important de se diversifier. On va parler d'Amazon, par exemple, on peut faire de la présence sur Amazon, faire de la publicité, présenter ses produits sur la plateforme. Je pense qu'il faut pas se lancer à un moment où on n'a jamais testé et qu'on se prenne un chou qu'on soit pas capable d'assumer quoi. Donc c'est nécessaire de diversifier ses sources, de les tester, mais c'est pas au moment le plus fort ou plus critique, solde, Noël ou quoi que ce soit, qu'il faut ouvrir les vannes de trucs qu'on n'a jamais testé, parce que sinon les blagues en général elles sont mauvaises. C'est-à-dire que soit on a trop de commandes, on n'est pas capable de gérer. On a vu ça chez des clients, donc ça nous fait pleurer. C'est-à-dire qu'on on va voir ce que ça fait. Et puis, quand ça fait super fort, le client, il dit, j'arrive pas à gérer la logistique. J'arrive pas, j'ai pas les stocks. Et résultat, en fait, il a des clients qui sont pas des clients, qui sont juste des gens pas contents, qui auront jamais leurs produits. Donc, il faut pas s'amuser, on va dire, à la période de pic. Il faut s'amuser toute l'année, préparer. Je commence à me répéter au bout de 5 minutes. Il faut préparer toute l'année et à un moment donné, accélérer, profiter de la vague. Mais la diversification, elle doit se penser en amont. Elle doit se préparer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et avoir testé avant, c'est le minimum pour pas se retrouver dans des situations qui soient intenables commercialement, en termes de flux, en termes de logistique. C'est souvent les trois problèmes, on va dire, qu'il peut y avoir quand on s'amuse comme ça. C'est problème de disponibilité en termes de serveur, en termes de site. On n'a pas prévu le shoot et derrière le site il fonctionne pas. Problème de stock. On n'avait pas les stocks pour vendre les trucs et finalement on fait arriver les clients sur des pages sur lesquelles on n'est pas capable de livrer parce qu'on n'a pas les flux. Et puis après, problème de logistique parce qu'on n'est pas foutu de livrer parce que toute la France a commandé la moitié du pays et la moitié de notre site et en fait, c'est plus possible. C'est pas un problème pour des soldes, c'est pas un problème pour un Black Friday, c'est un problème pour Noël où il y a des dates fixes, par exemple. Donc moi, j'aurais tendance à dire, oui, on peut tester des choses, mais pas au moment où ça chauffe, avant, pour les amplifier.
Ok, très bien. Et du coup, Pavel, toi, tu me parlais, on en discutait hein, avant ce live, que toi, tu prenais ce moment quand tu étais e-commerçant pour réveiller ta base, en fait. Du coup, tu me disais, c'est pour travailler ton client, en fait, existant.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce que dit Jean-François, c'est génial, parce que ça me fait exactement penser à des bêtises que j'ai faites exactement, je suivais les mêmes histoires. Et effectivement, c'est dramatique parce que juste pour abonder dans ce sens-là, c'est qu'en fait, finalement, on est content, on voit le compteur à commande qui augmente, mais en fait, on est en train de faire une espèce de... On crée une base de clients mécontents qui vont faire... Mais forcément, qui vont l'exprimer. Et ça va être hyper dur de récupérer ça. Donc, il faut être hyper vigilant. Une croissance, ça se sécurise, évidemment. On prépare, dans ce qu'on dit, quand on prépare bien les opérations, les canaux d'acquisition, etc. Mais aussi, ça se gère dans l'accélération pour pas se retrouver, justement, dans ce cas. Donc, ça, c'est juste pour le dire, effectivement. Et oui, et donc, moi, effectivement, il y a une chose que je faisais assez régulièrement pendant ces fortes périodes, c'est que j'en profitais pour réveiller mes bases les plus dormantes. Celles qui étaient encore opt-in chez moi, mais que je ne revoyais plus. Et c'était le moment ou jamais d'essayer de leur retendre la main pour les faire revenir. Et ça marchait plutôt pas mal, puisque souvent, on se rend compte que nos e-commerçants, ils sont assis sur une... Ils ont un peu d'historique sur une belle base. Et d'ailleurs, je rejoins complètement le point de Jean-François qui dit que c'est l'occasion de faire du lead nurture, enfin, de prendre plus de leads. Ça, c'est clairement, c'est clé. Et effectivement, dans toute l'histoire d'un commerçant, normalement, s'il a bien travaillé, il y a des points de contact qui se font un peu tous les jours. Et il y a cette base qui est là, qui est opt-in, à qui on doit parler, et encore plus fort pendant ce moment-là, parce qu'elle va être vachement réactive et très réceptive au message qu'on envoie. Donc, typiquement, je partitionne bien ma base de clients très dormants et des clients plus actifs. Et à ce moment-là, ou même des leads, hein, c'est pas forcément que des clients, c'est peut-être des gens qui ont juste laissé leur email. Et j'en profite pour leur faire une belle campagne pour eux aussi, pour les réveiller. Et là aussi, là où je rejoins Jean-François, c'est qu'effectivement, Black Friday, c'est exceptionnel, c'est très éphémère, c'est là, mais l'animation commerciale, si vous voulez, si on va la prendre dans tout son sens, la gestion de son site avec des canalisations, c'est toute l'année, c'est 365 jours par an. Donc là, on le fait parce qu'il y a des impacts qui sont très forts pour un Black Friday où effectivement, les serveurs peuvent planter. Ça, c'est juste dramatique. Forcément, le fait de vouloir aller plus loin que ce qu'on est capable de délivrer, ça aussi, il faut faire attention. Donc voilà, tout ça, on gère cette croissance, on fait attention. Mais voilà. Donc, réveil de base, effectivement, pardon, pour revenir sur le sujet, c'est un super moment. C'est un bon moment, comme on dit.
Du coup, après, oui, vas-y.
Peut-être pour rebondir sur l'incapacité, en fait, de gérer sa logistique et de ne pas livrer. C'est aussi de. Bon, il y a de l'anticipation, bien évidemment. Après, avec la situation de Corona, on ne s'y attendait vraiment pas. Mais il y a aussi de la préparation. J'ai vu des clients, notamment un atelier de bijouterie, qui avait 1000 commandes ou 2000 commandes par mois, avec PrestaShop également. Et en fait, qui sont passés à 5000, 6000 envois, 8000 envois par mois en l'espace de 3 mois. Et donc, je leur ai demandé comment vous êtes préparés à ça. Et elles m'ont tout simplement dit, on a embauché plus de personnes, on a fait énormément de pubs sur Instagram, on a fait plein de concours. Donc, au final, c'est elles se sont préparées sans savoir ce qui allait se passer, mais tout s'est super bien passé. Et c'est après aussi investir dans des outils. Bon, je vais parler de SoundCloud, mais investir dans des outils comme SoundCloud où on a la possibilité, en fait, de tout automatiser, de choisir le transporteur, les différents modes de livraison. Et ensuite, l'impression et tout découle, on va dire. Mais au final, oui, il peut y avoir des problèmes de logistique, mais si on sait, si on y réfléchit un petit peu avant, je pense que c'est quelque chose qui peut être anticipé et tout peut très bien se passer. Après, il y a bien évidemment des situations qui ne fonctionnent pas tant que ça, mais la plupart du temps, ça marche assez bien.
Nous, c'est vrai qu'en termes plus techniques, ça se prépare aussi chez nous, parce qu'on a eu un exemple typiquement Rec Paris, donc qui est la marque de Caroline Receveur, qui, à chaque lancement de collection, en fait, nous fait un pic de milliers d'utilisateurs en simultané, en fait, au moment où à 20h, elle ouvre la nouvelle collection, à 20h, on en a 4000 d'un coup qui arrivent. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui se préparent aussi au niveau du site Internet, parce que, notamment, le serveur peut péter, peut exposer les compteurs. Et donc, voilà, il faut y penser aussi au niveau… Donc là, je parle vraiment plus technique dans notre domaine, quoi. Ok, bah, super intéressant. Et en termes d'obstacles en fait qui peut arriver pendant cette période, qu'est-ce que vous diriez comme les principaux obstacles qu'ils pourraient avoir en termes d'e-commerçants pendant la peak season et comment ils peuvent s'y préparer? Pavel, est-ce que tu as une expérience là-dessus à nous partager?
Alors, quand tu parles d'obstacles, c'est des freins à anticiper, tu veux dire?
Oui, c'est ça,
tout à
fait.
Ok, en fait, si je comprends un peu, enfin, après, on va tous peut-être abonder dans ce temps-là, mais sinon, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Hein. Finalement, c'est bien préparer ses catalogues, avoir vérifié que en termes de nos canaux d'acquisition, on ne part pas sur n'importe quoi. Je suis assez d'accord avec Jean-François, on ne teste pas n'importe quoi à ce moment-là, parce que les coûts d'acquisition peuvent juste exploser. Alors, du coup, faire peu de commandes et avoir un coût d'acquisition qui est juste horrible, ou au contraire, effectivement, tout soit bien paramétré et explosion finalement de la croissance et pas possibilité de délivrer la promesse en face auprès des clients, c'est-à-dire de livrer leurs produits tout simplement. C'est effectivement, c'est le moment de bien préparer. Enfin, on sait que certains commerçants ont quelques grands marronniers finalement, mais moi ce que j'ai envie de dire finalement au-delà des peak season, c'est que finalement une bonne animation commerciale, on la prépare quand même tout au long de l'année. C'est des réflexes qu'on continue à avoir comme ça. Comme ça, quand on arrive en peak season, on a déjà ces réflexes. On a ses habitudes d'analyse de ses produits, de son merchandising. On connaît bien ses campagnes d'acquisition. On parle beaucoup avec son agence et finalement, c'est extrêmement important pour être sûr de pouvoir aussi définir un peu en amont et pas justement en last minute en disant une semaine avant, oh là là, attention, j'ai envie de lancer des campagnes d'acquisition. Non, on le prépare avec son agence, ça c'est clé. Et effectivement, on s'équipe d'un bon produit, effectivement, au niveau de toute la partie transport, parce que les gens, finalement, une fois qu'ils ont acheté un super produit avec un prix génial, tout ce qu'ils attendent, c'est devant leur boîte aux lettres qu'il arrive, si vous voulez. Donc, finalement, ça, il faut être aussi assez vigilant de ça. Et voilà, et on fait attention aussi. Alors, je suis désolé, je monopolise un peu sur le sujet, mais mais effectivement, sa solution e-commerce, bon, là, effectivement, je parle de PrestaShop, mais il faut quelque chose de solide aussi. Non, mais alors, voilà, parce que c'est. Il faut pouvoir se dire que cette boutique-là, c'est, euh, sa structure. C'est quand même tellement dommage de rater des peak season parce qu'à un moment donné, son site n'a pas tenu de ça. C'est vraiment dommageable en tout cas. Et voilà, donc on fait attention à ce que si son écosystème fonctionne bien, soit prêt. Et on parle aussi avec son agence pour ça. Je le répète jamais assez parce que les expertises sont aussi dans nos agences. Voilà.
Tout à fait. Pareil, Jean-François, un dernier conseil à donner.
Pour compléter, en fait, et pour aller au sens inverse de ce que je disais tout à l'heure, dire pas tester, machin, c'est que le principal obstacle et le principal souci, on va dire, qui, alors, au-delà de tous les aspects techniques qu'on va pouvoir redire, il y a l'aspect psychologique. La psychologie du e-commerçant, je ne sais pas si je vais réussir à en dire beaucoup là-dessus, mais c'est de dire, à un moment donné, on sous-estime souvent, et notamment ces dernières années, le gain qu'on peut avoir dans ces périodes-là. C'est-à-dire que on sous-estime parce qu'on a l'habitude de faire, je dis ce que je disais, 100 ou 1000 ou 10 000, et on n'imagine pas qu'à un moment donné, il y ait des changements de comportement qui soient aussi massifs, qu'on puisse détourner une partie de ses audiences pour soi, et on ne prévoit pas les budgets qui sont nécessaires pour se rendre visible dans ces moments-là où il y a une surdépense publicitaire. Vous allez voir à la radio, à la télé, vous allez voir de l'affichage 4x3, vous allez voir sur Internet. Ce phénomène de Black Friday va être gigantesque. Il va tirer l'audience de tout le monde, mais surtout ceux qui vont annoncer. Donc, c'est-à-dire, il faut imaginer que ce flux va arriver, mais il faut imaginer aussi que pour jouer là-dedans, il faut payer. Donc, c'est ce que je disais par rapport à Google tout à l'heure, c'est qu'on multiplie par X le budget. Et ça a été une discussion longue avec le client pour arriver à ça, pour le convaincre de ça, parce qu'il n'était pas certain d'augmenter ses budgets. On dit, à un moment donné, il faut oublier ce que c'était les 364 jours avant et se dire, il va se passer quelque chose d'exceptionnel, c'est un tsunami. Je parlais de vague, maintenant je parle de tsunami. Il faut être prêt psychologiquement à aller là-dedans et à jouer avec les moyens qui sont nécessaires pour jouer là-dedans. Je parle en termes financiers par rapport à la publicité, mais je rejoins aussi le sujet, et c'est le sujet principal aussi, s'assurer que ces outils tiennent la route à ce moment-là, que ça soit un pass. Alors, nous, on a beaucoup de clients qui passent à la télé, alors qui font de la pub, ça ne fait pas beaucoup d'effet, mais si vous passez une émission de télé, Capital, machin, une émission conso, vous allez avoir un flux de plusieurs milliers de visiteurs qui va arriver, là, on est sur un pic, et si ces événements ne sont pas préparés, eh ben, on passe au travers du pic, et c'est qui en profite? Ce sont ceux qui sont derrière, qui sont nos concurrents, nos distributeurs, qui vont tirer profit. Ou si vous passez à Télématin, par exemple, parce que c'est des audiences qui sont de délire. Si vos outils ne sont pas prêts, vous allez passer au travers et vous allez laisser passer ce coup de communication à vos concurrents. Donc, d'une part, se débloquer psychologiquement en disant, en fait, il se passe quelque chose que je suis pas capable d'appréhender. Il faut juste que je mette des moyens pour pouvoir jouer là-dedans. Et deuxièmement, il faut que j'ai les outils humain et technique pour m'assurer de prendre ce flux et si je le prends correctement, tout se passera bien.
Du coup, je vois une question passer dans le chat pour rebondir un peu sur Google. La question, c'est comment faire pour les prix soldés définis pour que le jour de lancement, ça soit pris en compte par Google? C'est une question qui est posée dans le chat. Est-ce que tu aurais une réponse à ça, Jean-François?
Sur du shopping, c'est dans le flux que ça passe, donc il n'y a pas de souci. Après, se reprend compte par Google. Dans tous les cas, c'est du shopping, donc pour moi, c'est du flux, donc il n'y a pas de question. Sur des questions SEO, les prix sont rarement affichés et les gens vont sur le site pour comparer. Après aussi, c'est pris quasiment en temps réel, donc je comprends pas la question, soit je vois pas la subtilité technique qu'on m'oppose, mais sur du flux, sur de la diffusion, il n'y a pas de souci. Et sur du SEO, ça peut prendre un petit moment, mais j'allais dire que les prix ne sont pas forcément affichés en SEO.
Oui,
non. Sur la partie publicitaire, il n'y a pas de problème.
Bon, après, s'il y a si on peut nous éclairer sur le détail de la question, si jamais on n'y a pas répondu, n'hésitez pas dans les commentaires. Céline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aussi? Pardon.
Je pense que c'était bien, c'est de la réponse de mon avis de Jean-François, ce que je comprends, c'est en tout cas, moi aussi, j'ai compris comme ça que c'était bien la partie technique. L'affichage du prix.
Je pense que c'est ça, oui. C'est comment c'est pris en compte instantanément par Google, donc comme tu disais, via le flux.
Sur la publicité, c'est du live, en fait. Donc, on diffuse ce flux et il n'y a pas de souci particulier. Et voilà. Et après, il y a la prise en compte par Google, mais aussi, il y a tout l'aspect, par contre, qu'il faut anticiper. Si on est sur de l'ads plus traditionnel, si le terme traditionnel n'est peut-être pas adapté, mais d'adapter ses annonces à la période, au moment donné, en citant les opérations promotionnelles qui sont en cours, en mettant les, les taux de promotion, en mettant des prix, en mettant les mots Black Friday, enfin tout ce qui va avec. Donc c'est important, c'est important d'intégrer ça dans l'ensemble de ces campagnes médias. Et le shopping, ça se fait tout seul. Sur le reste, ça nécessite du setup et ça prend. C'est comme mettre à jour ses produits, ses prix, les heures avant les soldes. Mais là, c'est pareil, faut préparer tout ça.
On a une autre question aussi dans le.
Il y a Monsieur Paul qui pose des questions.
Monsieur Paul, il y a une autre question aussi. Vous avez parlé de réveiller la base dormante tout à l'heure. Avez-vous des exemples concrets pour le faire ? Pavel, c'était notamment toi. Est-ce que tu as un exemple ?
Ouais, mais c'est un peu ce que je disais. Après, ça dépendra vraiment des habitudes. Un, des communications qui sont déjà mises en place. Deux, de qu'est-ce qu'on appelle. C'est important parce que suivant les business, il y a des gens où après 13 mois, on peut considérer qu'ils sont perdus. Mais certains, après 6 mois, ils sont déjà considérés comme perdus. Donc déjà, avant de commencer à savoir quel message on va faire, c'est déjà comment est-ce que je segmente bien mes personas de clients dormants. Donc ça, c'est important. C'est l'histoire qui doit le dire. Il faut analyser un peu ces données. C'est pas bien compliqué non plus. On prend les 3 dernières années, par exemple. On regarde un petit peu comment est faite la répartition de ses clients. En tout cas, si on l'a pas déjà fait, c'est le moment de le faire aussi parce que je trouve que c'est un travail qui est extrêmement important et intéressant. Et après, en fonction de si c'est un client qui est vraiment perdu depuis un petit moment, évidemment, on va essayer. Il faut considérer à ce moment-là que le mec, effectivement, on l'a déjà payé une fois, mais là, on va devoir le reconvertir. On va devoir le réengager. Donc, il va falloir faire un effort. Et un effort, ça va sans doute passer par peut-être ce que j'appelle moi les petits nudges, ces petits éléments qui vont lui donner, les petits éléments marketing qui vont lui donner vraiment envie de revenir. Donc, on va lui offrir un petit truc. Est-ce que c'est dans un bundle, on va lui, parce qu'il a atteint un certain niveau de panier moyen, il va prendre quelque chose en plus ou on lui offre quelque chose en plus. Ça dépendra vraiment de qu'est-ce que l'on vend derrière. Mais moi, les exemples, c'est déjà, si vous voulez, l'exercice le plus difficile là-dedans, c'est surtout de bien segmenter sa base et de comprendre à partir de quand un client est dormant chez nous, en fait, pour l'engager. Et après, on le engage sur les opérations promotionnelles, sur la sécurisation, sur, enfin, par rapport aux frais de port, on lui redonne ces éléments-là. Il faut savoir que ce que j'ai vu historiquement, un client que je réengageais, qui était considéré comme dormant perdant, moi j'avais une saisonnalité à 13 mois, les gens passaient 13 mois, je les avais perdus, revenaient avec un panier moyen beaucoup plus élevé, en fait, par rapport à des clients nouveaux. Donc en fait, même si ils n'étaient pas encore à rythme de clients fidèles, dans tous les cas, ils revenaient avec un panier moyen plus élevé qu'un client nouveau. Donc en fait, il y avait comme cet effet de marque. De plus, ils devaient se souvenir de leur expérience chez moi précédemment. Ils revenaient et ils consommaient mieux. Donc, finalement, c'est un travail qui vaut vraiment le coup, quelque part. Donc, niveau 1, si vous voulez l'opération marketing autour, bah, c'est un peu comme vous voulez. 2 plus 3, 2 HT, 3e offert, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Mais c'est surtout la préparation et la bonne segmentation de la base.
Céline, est-ce que tu as un dernier conseil aussi pour le mot de la fin? Parce qu'on arrive sur la fin de ce live, est-ce que tu aurais un dernier conseil ultime pour les e-commerçants, ciblés livraison du coup?
Oui, je dirais transparence et clarté. Donc, privilégier en fait ces deux aspects-là de votre business. Ça peut être pour la livraison ou pour tout. Transparence par rapport, je vais parler de la livraison, mais par rapport aux frais, aux coûts, aux délais, afin de bien informer le client et qu'il n'y ait pas de surprise par la suite, et clarté, surtout pour la partie post-achat. Donc, ça va pouvoir passer par des emails de suivi, par une page de suivi, que en fait, vous allez pouvoir personnaliser. Donc, n'hésitez pas à ajouter, je ne sais pas, vos logos, la couleur de votre marque, ce qui va vous permettre en fait d'accentuer l'expérience client, d'augmenter votre taux de conversion et de faire en sorte que le client ne vienne pas vers votre service client demandant où est mon colis, par exemple. Donc, c'est en fait quelques petites astuces qui sont en somme assez simples, mais qui peuvent vous faire gagner du temps pour que l'e-commerçant en fait se concentre plus sur sa stratégie marketing, par exemple, et passe moins de temps sur l'aspect logistique et post-achat. Donc après, offrir, je sais pas, des promotions si jamais les clients reviennent, des choses comme ça, mais vraiment transparence et clarté au niveau de la communication.
D'accord, très bien, merci. Pareil, est-ce que Pavel, Jean-François, vous avez un dernier conseil ultime à donner qu'on n'aurait pas parlé précédemment?
Un conseil ultime, non, c'est ce qu'on a dit et redit, c'est que préparez la peak saison de 2021 maintenant et préparez votre plan d'action à l'année en fait. Et ensuite, tous ces sujets-là, la peak saison, seront juste un détail de l'année où vous ajusterez des budgets. Donc, anticipez. Et puis, sauf si vous n'avez pas le choix, vous êtes vraiment à la rue de tester quelque chose au dernier moment. Mais vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas suivi tout ce qu'on a dit avant et qu'il n'y a plus le choix. Donc, si c'est votre dernière cartouche, tirez-la, c'est le moment. Et ce petit tiré là pour l'année prochaine, ça sera, on va dire, plus productif et sûrement plus rentable pour vous.
Pavel, dernier mot également, dis-moi.
Je vais pas dire beaucoup mieux, finalement, c'est l'animation commerciale, c'est toute l'année. Et après, le reste, ça devient effectivement du détail. Et quand on a pris ce bon rythme, et surtout, on n'hésite pas à parler avec ses agences partenaires, parce que sont quand même très bien placés pour aussi aider à accélérer voilà, et utiliser aussi les bonnes solutions. Donc non, mais c'est important parce que souvent, le e-commerçant, c'est l'homme orchestre. Il veut tout faire, il veut tout pouvoir gérer, etc. Et aujourd'hui, c'est un sport, on le sait, nous tous autour de cette table ronde numérique, c'est un sport de haut niveau. Mmh. Et il faut trouver aussi des bonnes solutions, des bons partenaires. Donc il ne faut pas hésiter à franchir le pas aussi, c'est important parce que ça permet de passer des caps assez importants. Voilà.
Bah, c'est une bonne transition pour dire que... Pardon.
J'allais dire, je complète, c'est un sport de haut niveau et c'est un sport de combat.
Ouais,
oui. On se bat avec Google, on se bat avec ses concurrents et il faut toujours avoir ça en tête, c'est que dans ce système-là, on est dans une compétition qui est extrêmement forte et on la gagne en étant agile et aussi en étant riche. Rentable et riche, malheureusement.
Oui. Du coup, c'est, comme je disais, c'est une bonne transition pour dire ben, on s'entoure de bonnes personnes et nous, n'hésitez pas à vous inscrire dans le formulaire, dans la page de l'événement qu'on vous redonnera. Pour que vous receviez des bonus gratuits, des conseils encore qui vont plus loin de chacun de nos intervenants aujourd'hui, donc que ça soit Syncloud, Cybercité ou PrestaShop. Et je voulais encore tous vous remercier d'avoir répondu présent à ce live et d'avoir parlé PixSZ avec moi. Et puis, je remercie également ceux qui nous ont écoutés, regardés sur YouTube, sur notre site, etc., d'avoir été là. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois. Bonne journée à tous.
Merci à tous.
Merci. Bon après-midi, bonne journée.
Au revoir.
Ciao.